Nous prions avant d'ouvrir les Écritures et de lire. Notre Dieu, si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoignent en nous, parmi nous, ta parole, ta présence, ton dynamisme créateur, qui travaille nos vies, nos pensées, nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins de confiance et d'espérance sur lesquels Jésus le Christ a marché et nous invite à le suivre. Amen. Je vous invite à lire ce matin un des textes bibliques sur lequel est appuyé le texte de la cantate qui sera joué ici cet après-midi à 17h30, puisque nous sommes le premier dimanche du mois. Il y avait trois textes dont le principal se trouve donc dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Et je lirai des versets 22 à 29, même s'il n'y a que deux versets dans ce texte, dans le texte de la cantate. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean représente une partie du dernier discours de Jésus à ses disciples. Un dernier et long discours dont le début est rythmé par des interventions de trois disciples. Une question est posée par Thomas qui ne comprend pas quel est le chemin pour suivre Jésus. Et Jésus de lui répondre qu'il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Puis une autre intervention, c'est celle de Philippe, qui voudraient que Jésus leur montre le Père. Alors Jésus lui dit que celui qu'il a vu, lui Jésus, a vu le Père, car le Père est en lui et lui dans le Père. Et enfin, Judas pose la question que nous avons lue ce matin. Donc pas Judas l'Iscariote, qui dans le récit est déjà sorti pour livrer Jésus à ceux qui vont le condamner et le faire crucifier. C'est un autre Judas, qui est souvent nommé Jude dans les traductions pour mieux le distinguer de Judas l'Iscariote. À la lecture de ce passage, vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas évident de comprendre en quoi ce que dit Jésus est la réponse à la question de Judas. La question est simple. Mais les paroles de Jésus qui nouent ensemble la garde de sa parole, l'amour, la promesse de l'envoi de l'Esprit-Saint, le don de la paix, tout cela ne semble pas relié à l'interrogation du disciple. Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? Et le décalage entre la question et la réponse est tout à fait délibéré. Si nous ne faisons pas confiance à l'évangéliste pour très bien savoir ce qu'il écrit, ce n'est pas la peine de lire, sauf à vouloir tourner en rond dans des incertitudes sans fin. Le décalage indique que la question de Judas est problématique. Elle révèle un désir auquel Jésus ne veut pas répondre. Mais parce qu'il ne laisse pas son disciple en plan, il répond au problème que pose la question. Pas à la question, mais au problème qu'elle pose. Et en second temps, seulement à la question. Que demande Judas exactement ? Nous pouvons reformuler la question de manière plus directe. Pourquoi ne te manifestes-tu pas au monde ? C'est-à-dire, pourquoi, comment se fait-il que tout ce que tu donnes, la vie éternelle, la paix, et que tout ce que tu révèles de Dieu comme Père, tout cela soit réservé à un petit groupe de gens pas très solides et puis pas très fiables, entre Judas l'Iscariote qui trahit, Pierre qui va renier trois fois, comment se fait-il que tu n'en fais pas part directement à l'humanité tout entière ? Judas a très bien compris l'infinie valeur de ce que Jésus révèle et apporte. Et il croit vraiment que Jésus apporte, de la part de Dieu, la plénitude de la vie. La grâce et la vérité, comme le prologue de l'Évangile le chante déjà au premier chapitre. Alors pourquoi pas tout de suite à tout le monde ? La question de Judas hante tous les disciples. Elle a glissé ou elle glisse son point d'interrogation au moins une fois en chacun, en tout lieu, depuis 20 siècles. Si Jésus avait manifesté la gloire du Père de manière universelle, spectaculaire et donc indiscutable, eh bien le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, et ce serait certainement beaucoup mieux. Judas est travaillé par la tentation du « là, maintenant, pour tous ». La tentation de l'extrême. L'avenir ultime. Une fin des temps sans attendre. Et c'est une tentation pour au moins deux raisons. Une raison, c'est que cette tentation peut pousser certains croyants à accélérer les choses, à faire de l'évangile et de la foi non pas une proposition de vie, mais une croyance plus ou moins imposée. Que tous croient et tous les moyens sont bons. Une tentation qui explique la fascination des grands nombres, du pouvoir, mais aussi l'usage de la violence physique, spirituelle ou symbolique. Nous le savons bien, l'histoire en montre de bien trop nombreux exemples. Ce sera donc toujours au détriment des personnes. Ce sera toujours une cause de démesure, de souffrance et de désespérance. Et l'autre raison pour laquelle la question de Judas est portée par une tentation, l'autre raison qui n'est pas moins importante, c'est que cette tentation, c'est celle du dépassement des limites de l'humain. La tentation de ne plus en tenir compte, ne plus tenir compte du temps, le temps qui passe, le passé, le présent, l'avenir, ne plus tenir compte de la condition humaine avec ses complexités, ses lenteurs, ses hésitations, ses ambiguïtés, ses incompréhensions, ses agitations. Judas voudrait que cette condition soit dépassée, que Jésus conduise l'humanité dans l'accomplissement de la plénitude divine, enfin. Il voudrait que la révélation portée par le Christ advienne dans son intensité maximum et pour tout le monde dans son ensemble. Judas se projette dans un avenir qu'il voudrait proche, mais qui est complètement irréel. Et la réponse de Jésus indique que ce désir, cette attente, cette aspiration ne sont pas ajustés du tout à ce que Jésus est venu révéler, qui ne peut ni s'imposer, ni être imposé. Car il s'agit d'une transformation intérieure des personnes, et pas de l'adhésion à une croyance. Il s'agit de prendre en compte le monde et l'humain, pas de les dépasser. La parole a été faite chair, c'est-à-dire en condition humaine, parce que cette condition humaine, toute imparfaite, suffit à l'Éternel pour son projet de vie. Tout ce que Jésus a dit et accompli, et déjà lorsque, au début de ce dernier repas, il a lavé les pieds de ses disciples, leur a commandé de faire de même et de s'aimer les uns les autres, tout cela pointe le temps présent des disciples dans le monde comme le temps du témoignage et des signes à poser, le temps de la vie quotidienne, nourri de confiance et d'amour, un être au quotidien porté, suscité par la demeure du Père en chaque disciple. Là où longtemps avant lui, le prophète Ézéchiel annonçait de la part de l'Éternel « Je conclurai pour eux une alliance de paix, ce sera une alliance perpétuelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ma demeure sera parmi eux, je serai leur peuple et ils seront mon... Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jésus-Christ à la fois intériorise et universalise cette demeure. Ce n'est plus un seul peuple qui est destinataire de la promesse, c'est tout le monde. Chacun et chacune, et quiconque entendra et s'ouvrira à cet accueil intérieur, spirituel, qui transforme l'existence. Et cela n'est ni spectaculaire, ni imposé. Et parce que cette habitation de Dieu en nous ne s'impose pas, Jésus indique comment l'accueillir, comment lui laisser place en nous, en gardant sa parole. Sa parole qui est celle du Père qui l'a envoyée. Cette parole, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Et le texte fait très bien la différence. Ce ne sont pas les paroles qu'il a prononcées ou les paroles que nous lisons dans les témoignages des évangiles. La parole à garder, celle qui dispose à l'accueil de Dieu et du Christ en nous, c'est celle qui, à travers les paroles que nous lisons, nous reste, celle qui nous touche, nous ébranle, nous bouleverse, celle qui fait vérité pour notre existence en nous libérant des assignations et des identifications dans lesquelles nous sommes enfermés par le monde. Nous y sommes enfermés dans ces assignations et ces identifications tant qu'une extériorité au monde qui ne nous est pourtant pas étrangère mais proche et qui est le Christ, ne les a pas fendus. Ce n'est pas spectaculaire, ni imposé, puisque cela advient à l'intérieur de soi. Mais par cette parole qui ouvre l'espace intérieur à l'habitation du Christ, le soi devient autre. Un soi autrement, délivré des exigences d'un moi toujours très agité, très occupé à satisfaire, à mériter ou à lutter contre les jugements et les intérêts du monde. Et ce devenir ne se mesure pas à un but à atteindre, mais il s'inscrit dans un chemin qui prend du temps et surtout qui prend en charge ce qui constitue notre humanité, avec ses fragilités, ses vulnérabilités, ses parts obscures, ses points aveugles et ses peurs. Cette demeure du Christ et de Dieu en nous, cette intériorité partagée en cohabitation, c'est une manière de dire la communion à laquelle Dieu appelle et ne cesse d'appeler, la communion comme vocation à vivre de la vie éternelle, à vivre de et dans l'amour agapé. Cet amour qui n'est jamais possessif, mais à la fois singularisant et reliant soi et l'autre. Il n'y a là rien qui solutionne tous les problèmes, rien qui évite les malheurs et rien qui soit un motif de gloire personnelle. Mais il ne s'agit de rien de moins que de la possibilité d'exister enfin, de vivre enfin de la vie vivante. Et c'est cela, l'Évangile. À Judas, qui voudrait une manifestation massive, majeure, qui signerait la fin du temps, Jésus répond par la promesse de cette divine demeure en chaque disciple, qui crée une autre manière de vivre dans le temps et dans le monde. Et Jésus dessine là un engagement des disciples, un engagement qui n'est pas une incitation à passer leur temps à s'élever pour gagner un espace divin, puisque Dieu demeure à l'intérieur d'eux-mêmes, mais un engagement qui est exhortation au partage, au témoignage, forcément gratuit, de la parole qui fait vivre enfin, témoignage qui passe par la manière de vivre et d'aimer. Et cela n'est pas spectaculaire et ne s'impose pas. Pas de juge sévère, voire impitoyable, pas de décompte serré des fautes et des erreurs, pas de prescription de choses à faire ou ne pas faire, pas de valeur morale à brandir, pas de tradition à maintenir absolument, pas non plus de promesse de bien-être ou de bonheur à construire par ses efforts. Seulement l'Esprit Saint. Le défenseur, dans la traduction de la Nouvelle Bible Second que j'ai lue, d'autres proposent l'avocat ou le consolateur. Et certaines traductions qui ne traduisent pas écrivent directement le paraclète, puisque c'est le terme grec. C'est un terme du domaine juridique qui désigne celui qui vient au secours, qui vient en soutien, qui vient en défense d'une personne. Parce que les fragilités, les vulnérabilités, les parts obscures, les points aveugles et les peurs, tout ça ne disparaît pas d'un coup par l'habitation de Dieu et du Christ dans le disciple. Alors le défenseur enseigne et rappelle. Il œuvre dans la foi, pour la foi et donc pour la vie vivante, afin que les disciples demeurent acteurs et actifs. Esprit, c'est-à-dire souffle, il élargit, il approfondit le souffle des disciples, notre souffle, dans la durée, dans différentes circonstances, épreuves, tentations, décisions, communion même. Un souffle pour soutenir notre souffle, nos paroles, nos actes, notre existence. Et ce défenseur, cet avocat, ce consolateur, ce paraclète, ne travaille pas à partir de rien. Il éclaire un sens jusque-là demeuré obscur, quelque chose qui a été lu, entendu dans les Écritures. Ce souvenir, ce n'est pas seulement se rappeler et raviver une mémoire défaillante. Ce souvenir, c'est prendre conscience de la signification de ce qu'on avait lu et entendu, quelque chose qui était déjà en soi, mais qu'on n'avait pas compris, qu'on avait oublié, qu'on avait enfoui. Et ce surgissement de sens, cet éclairement de l'intelligence, cela, c'est l'œuvre de l'esprit. Contre l'indifférence, contre l'ignorance, comme contre l'endoctrinement, c'est l'œuvre du défenseur pour la liberté, pour la reconnaissance et pour l'esprit de chacun. D'ailleurs, l'évangéliste Jean a précédemment plusieurs fois noté dans son récit, à telle ou telle occasion, que les disciples se souviennent de tels gestes, se souviendront de tels gestes ou de telles paroles de Jésus après sa résurrection. Gestes et paroles qui sont alors éclairés et éclairants. L'Esprit révèle ce qui était déjà là, en chacun, en nous. Il n'a rien à voir avec la spontanéité d'une expression qui n'a pas été réfléchie. Il souffle dans la mémoire pour faire remonter à la surface et en conscience ce qui était enfoui dans les profondeurs. Ce qui nous engage et nous encourage à lire encore les Écritures, chacun et ensemble. C'est pourquoi, lors du culte, nous prions, avant la lecture de la Bible, nous prions que l'Esprit vienne éclairer le nôtre, la prière d'illumination, même si l'illumination peut survenir dans un délai plus ou moins long. Je me souviens, ce n'est pas seulement je me rappelle, et nous pouvons nous souvenir ainsi, même après avoir oublié. C'est aussi pourquoi le sens n'est pas donné une fois pour toutes, mais qu'un autre sens pourra surgir dans une nouvelle circonstance, car il ne s'agit pas d'un sens abstrait, mais d'un sens existentiel, un sens qui procure un sursaut, un autre point de vue, un élargissement de la vie vivante à une part de l'être qui n'en était pas encore bénéficiaire. C'est enfin aussi pourquoi deux personnes pourront être illuminées, pourront trouver chacune un sens différent à la même lecture. C'est par l'Esprit défenseur, avocat, consolateur que les Écritures peuvent être cette ressource renouvelée et inépuisable dont les réformateurs ont fait un des piliers du protestantisme. Dieu ne fera pas sans vous, sans les disciples, dit le Christ à Judas. Le Christ ne fera pas sans les disciples, mais à travers eux, depuis l'intérieur de l'être jusque vers l'extérieur, à destination d'autrui. Et c'est ainsi que Jésus donne la paix, non pas en imposant à tous sa manifestation indiscutable de Christ, mais en pacifiant l'être depuis son intériorité, par l'œuvre de la parole, dans la confiance d'être habité par Dieu, la confiance que Dieu vient se tenir là, dans la profondeur de l'intime de chacun et de chacune, une demeure qui vivifie l'existence en vie vivante. Amen.